France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je m'appelle Antonio Papano. Je suis né à Essex, en Angleterre, le 30 décembre 1959. Et je suis chef d'orchestre et pianiste.
Antonio Papano, vous avez, cette première enfance qui se passe en Angleterre, cette adolescence, cette jeunesse qui se passe aux États-Unis, et puis un peu à l'inverse de Christophe Colomb, vous allez laisser le Nouveau Monde pour aller trouver la vieille Europe. Et là, vous allez arriver, vous allez avoir des expériences au lycée ou à Barcelone, où peut-être paradoxalement, mais j'ai l'impression que c'est là, peut-être que vous avez aussi beaucoup tutoyé la musique allemande.
Oui, parce que la musique allemande à Barcelone était très forte. Je ne sais pas s'ils ont toujours le Wagner Society comme ils avaient à l'époque, mais à l'époque c'était fort. Le répertoire, il y avait beaucoup de Wagner, Strauss. Alors Romano Gandolfi, qui était directeur musical, m'a dit « Ah, vous devez venir à Barcelone ». Et j'ai joué d'abord pour tous les grands chanteurs. J'ai fait le chef de chant pour Montserrat Caballé, pour José Carreras, pour Alfredo Kraus, pour Mirella Freni, tout le monde. Fiorenza Cossotto, tout le monde.
Votre père devait être fou, non?
Oui.
Fou et fier.
Fou et fier. Et j'ai commencé à comprendre les grandes voix. Ça, c'était le moment. Parce que c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. J'ai aussi compris la couleur des chœurs créés par des grands chefs. Oh, ça m'a aussi transformé l'oreille. Aussi que le son de Bayreuth, le son d'orchestre, de l'orchestre et des chœurs de Norbert Balatsch, qui était le chef de chœur à l'époque quand j'étais chef de chant à Bayreuth. Moi, j'ai entendu des sons que j'ai toujours aujourd'hui le souvenir. Et une carrière se crée, je pense, par des sons qui restent dans l'oreille. Et comment ces sons sont produits. Et comment les reproduire.
C'est la quête.
Oui, et ça c'est la clé.
Après, vous allez avoir un passage aussi à Francfort, Antonio Papano, aux côtés de Michael Gillen.
Oui, je me suis dit que j'ai un nom italien et tout le monde pense que je dois jouer, parce que j'étais toujours au piano, le répertoire italien. Et je voulais pas. Et c'est pour ça que je suis allé à Barcelone pour jouer le répertoire allemand. Et il faut aller en Allemagne, parce que si je voulais avoir affaire avec la musique de Wagner et Strauss, je devais apprendre l'allemand. Et j'ai fait ça, et j'étais seul, j'étais pas marié, j'avais la liberté d'aller ici et là. Et j'ai joué des grands opéras pour Michael Gillen, la tétralogie, mais même autre répertoire, le répertoire italien.
Est-ce que c'est là que vous rencontrez ce que c'est que le Reggae Theater, par exemple, en termes de mise en scène?
À Francfort, j'ai vu un théâtre complètement autre chose de ce que j'ai vu à les États-Unis, par exemple. Le Régie Théâtre, où le metteur en scène a une grande, grande pouvoir, mais avec un grand chef ensemble, une grande sensibilité, une grande intelligence, et aussi un style de théâtre qui est un mélange de toutes les possibilités de l'être humain. L'interprétation, le cœur, la tête, l'intellect et une nouvelle vision pour ce qui est la part visuelle du spectacle. D'abord, j'étais bouleversé et j'étais tellement confus, j'ai rien compris. Mais en travaillant avec des gens comme Gillen et Ruth Berghaus, le metteur en scène de l'Est allemande, j'ai un peu commencé à un théâtre qui avait beaucoup à voir avec la cervelle, avec la tête. Je suis resté avec cette mémoire et cette vision du théâtre, et quand ça fonctionne, c'est très fort.
Antonio Papano, il y a une rencontre importante qui va se passer, c'est celle que vous allez faire avec Daniel Barenboim. Évidemment, quand on pense à vous deux, on se dit que vous avez beaucoup en partage, l'expérience de l'immigration jeune aussi, le piano. Quand vous le rencontrez, vous le connaissez pas, il vous connaît pas, qu'est-ce qui se passe et c'est dans quel cadre? Parce que je crois que cette rencontre, elle vaut la peine d'être racontée.
Mais Daniel Barenboim, il adore raconter cette histoire. Moi, je jouais des auditions pour Wolfgang Wagner à Berlin. C'était pour la nouvelle tétralogie avec Harry Kupfer comme metteur en scène. Et dans la salle, il avait Harry Kupfer, Wolfgang Wagner et Daniel Barenboim ensemble. Et je suis sorti avec le soprano, qui à l'époque, c'était Deborah Polaski. Elle commençait avec la narration dans le premier acte de Tristan. Et je commence à jouer cette introduction. Et Daniel Barenboim dit à Wolfgang Wagner, du soprano, je ne sais pas encore, parce qu'elle a chanté pas une note. Mais le pianiste, celui-là, je le veux. Comment faire vivre ces partitions au piano? Naturellement, la musique de Wagner est spécialement à Tristan et Isolde très liée à la musique de Liszt, en particulier le premier acte.
Se retrouver sur la colline sacrée aux côtés de Barenboim quand on est un tout jeune, on n'est même pas chef du tout, on ne sait même pas si un jour on sera chef. Pour l'instant, vous êtes pianiste, vous êtes aux côtés d'un grand pianiste, d'un grand chef dans un lieu qui est mythique, ça doit donner un peu de vertige. Et en même temps, ça doit être très excitant.
Oui, je dirais que oui, parce que je devais apprendre tout le Tristan en 3 semaines, et pour jouer pour lui, que Tristan, il avait déjà dirigé plusieurs fois, alors il connaissait par mémoire, ça. Et moi, je connaissais, regardant la musique avec mes yeux ouverts comme ça. Et... Mais Bayreuth est une espèce de workshop. C'est une fabrique quelque part où les opéras se construisent, pas seulement pour année, mais une production se construit chaque année. C'est retravailler, de travailler pour ajouter des choses, pour développer. Et cet esprit, c'est très important pour un jeune musicien. Le son de l'orchestre, c'est mythique. La musique même, la complexité, le texte, l'importance du texte, l'importance des idées philosophiques, complexes, psychologiques, c'est vraiment un nouveau monde pour moi.
Les grands entretiens d'Antonio Papano, France Musique.
Ça, c'était une révélation pour moi aussi. Naturellement, la personnalité de Daniel Barenboim, une personnalité très forte, très sûre de soi-même et très sûre de ses idées, avec une mémoire incroyable et une façon de travailler très efficace. Après une répétition de l'orchestre où il enchaînait pour 1 heure, il pouvait retourner à faire les corrections de chaque coin de la partition. Incroyable. Alors j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que sont les choses essentiel pour un chef d'orchestre.
Le moment du concert et l'art de la répétition.
Oui, parce que c'est dans les répétitions qu'on perd l'orchestre.
Ou qu'on le gagne.
Ou qu'on le gagne.
En parlant de figures et de moments comme ça importants, Antonio Papano, je pense à 93, on vous appelle pour remplacer Dornani pour Siegfried à Vienne.
Oui, pourquoi je suis allé à Vienne à diriger Siegfried, même moi je ne sais pas. Mais j'ai eu cette opportunité parce que von Dornani était malade et j'ai fait la générale. J'avais jamais dirigé un opéra de Wagner, j'avais jamais dirigé la Philharmonique de Vienne. Et je suis allé, je connaissais Siegfried très très bien, parce que j'ai fait le chef de chant pour tous les rôles, je connaissais tout par mémoire. Et la partition, le soir avant, j'ai pris la partition de Daniel Barenboim, et chez lui, je l'ai étudiée comme fou, presque toute la nuit. Et le jour après, je suis allé, ils m'ont amené à l'hôpital pour voir von Dornani. Et il m'a donné deux, trois conseils. Je suis allé à la générale et j'ai fait la générale. Et j'ai fait la première. C'était incroyable. J'étais tellement souveraine. Et je ne sais, même aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'étais froide. Et c'était un très grand succès à l'époque. Et ça a fait que je n'avais pas le problème du fait que j'avais un nom Papano, italien ou pas italien. De ce jour-là, j'étais libre d'être considéré dans tous les répertoires. Et ça, c'est un moment très important pour moi.
Oh,
Antonio Papano, on vous entend parler un très beau français et on se dit que ce français, vous l'avez sans doute appris quand vous passez 10 ans à la Monnaie de Bruxelles, repéré par Bernard Faucroule qui vient vous écouter à Oslo et qui se dit, tiens, celui-là, il est jeune et ce serait bien qu'il arrive pour prendre la suite de Sylvain Cambrelin dans cette maison très marquée par Gérard Mortier, cet art du théâtre, du drame. C'est une école aussi, la Monnaie, que va poursuivre Bernard Faucroule, de conjuguer véritablement le théâtre, le plateau, la fosse. Vous arrivez là, vous êtes jeune, vous allez y passer 10 ans. Ce sont des années fondatrices aussi, j'imagine.
Oui. Bernard Faucroule, il avait beaucoup de courage de me donner cette place-là. Mais oui, j'ai appris un théâtre, un processus de faire l'opéra très raffiné, très visuellement esthétique. Mais qu'il fallait une musicalité en dessous qui vibrait, parce que l'esthétique peut être froide. Et moi, je pense que j'ai amené une chaleur ou une intensité. Et ça créait une belle tension avec le visuel et la musique. Et il faut ce contraste, je pense, dans le théâtre. Ces années étaient vraiment fondatrices pour moi. Je m'ai investi là 10 ans de ma vie et j'ai connu des personnes très importantes, des grands metteurs en scène.
Qui, par exemple? Quels sont vos souvenirs forts que vous gardez?
Gruber, Klaus-Michael Gruber, Luc Bondy, Willy Decker et Steinwinger et Les Herrmann. J'ai eu vraiment des grandes opportunités là-bas. J'ai travaillé là avec Keith Warner, avec Guy Houston, plusieurs metteurs en scène. Et j'ai toujours des expériences très fortes. Le team était très fort, avec Bernard Faucroule, Bernd Loeber comme le casting director, Bernd Loeber qui est le chef de l'Opéra de Francfort aujourd'hui, et moi. Nous étions très différents l'un de l'autre. Mais ça, c'était notre force.
Et puis, Antonio Papano, peut-être aussi, de découvrir, parce que je pense que c'est un petit peu là que les choses commencent, la création, la commande d'œuvres, d'un opéra, avec, par exemple, Philippe Boussemans. Oui. Ça, c'est quelque chose auquel vous n'aviez pas touché tellement.
Oui, non, et de travailler avec Philippe Boussemans, le Comte d'Hiver, c'était vraiment très important pour moi, un des plus belles projets. La création, naturellement, de suivre de A jusqu'à Z, sont des expériences uniques.
Ça vous faisait ressentir ce petit regret que vous évoquiez de Franchetti?
Moi, je ne suis pas une personne solitaire, et le compositeur doit être une personne solitaire. moi, je suis fait pour être avec beaucoup de gens et pour crier et pour... Oui.
Ist ein trauriges Lied, das Beste. Es war einmal. Die Hälfte hab ich vergessen. Andere erzähl ich dir. Du wirst sterben, kleiner Prinz. Magersucht und Melancholie.
Was macht die?
Er prügelt Böhmen, weil er gehen will.
Un extrait des Contes d'hiver de Philippe Boussemans à la Monnette Bruxelles, une expérience marquante pour le maestro. Ainsi se referme le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Antonio Papano. Antonio Papano qui sera demain soir en concert en la Basilique Saint-Denis dans le cadre du Festival de Saint-Denis à la tête de l'Académie Sainte-Cécile, programme Rossini-Brahms. Merci à toute l'équipe, Gilles Blanchard, Romain Luquien, Manu Couturier et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.